À tous, nous devons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je vous propose la désignation de M. Jean-Paul Lemaire, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous indique que j'ai reçu la proposition de Jean-Michel Marleau au profit de Francine Deneau, ainsi que celle de Pascal Gilles au profit de Sylvette Gilles. J'ouvre une grosse parenthèse dans ce conseil, dans ce début de séance, pour évoquer la mémoire de quelqu'un qui nous a été cher, un bon camarade à toi. Il s'agit de Lia Zanelli, qui a été la présidente du comité de jumelage Travaco Camarade du côté italien, bien entendu, et qui nous a quittés malheureusement. Donc on a tissé des liens très très forts avec cette grande et belle personne. Mais je pense que c'est encore René Sauvera, qui a longtemps présidé le comité de jumelage, qui en parlera le mieux. Donc je vous passe la parole, René, avec un micro.
Voilà, c'est mieux comme ça. Non, c'est bon, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, madame le chef du cabinet, cher Michel, cher Jean-Pierre, je suis honorée mais aussi émue que vous m'ayez sollicité en ma qualité d'ex-présidente du jumelage franco-italien durant 6 ans pour lire cet hommage rendu à la mémoire de Lia Zanelli. Hommage écrit par l'un des fondateurs du jumelage, Michel Payalonga, ici présent. Au soir de novembre 2004, une délégation de l'île Camaritois était accueillie en mairie de Travaco-Sicomario par l'élu délégué au jumelage, avec l'approbation du maire M. Herman Bonazzi et de son adjoint M. Sandro Bianchi. Avec toute sa modestie, mais en même temps toute sa grâce, Lia Zanelli rapprochait ce soir-là deux communes européennes et créait par la même une grande amitié entre de nombreuses familles de deux communes et de deux pays différents. Lors de cette première rencontre, qui aurait pensé que des centaines de personnes allaient se rapprocher sans se connaître? C'était là la première victoire d'une femme dotée d'une incommensurable générosité et d'un dévouement exceptionnel envers ses communes. Lia Zanelli, une femme au grand cœur qui nous a illuminés par sa gentillesse, sa générosité, son engouement au partage d'échanges entre nos deux communes, au vécu divergent, mais dans la perspective d'un futur convergent. Durant ses 15 années de présidence du jumelage, Lia nous a fait vivre des moments d'amitié exceptionnels. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui nous lui rendrions un hommage solennel, comme si nous avions perdu une mère ou une sœur? Une mère attentionnée, toujours minutieuse du moindre détail lors de nos échanges entre nos deux communes, une présidente convaincante qui a toujours su rassembler autour d'elle des amis fidèles aux idées opposées, certes, mais qui répondait toujours présent et la soutenait lorsqu'elle le leur demandait. Mais aussi une bénévole hors pair qui consacrait son temps libre au service des autres. Que ce soit au sein de la municipalité de Travaco durant 2 mandats, au sein de la protection civile, du comité des fêtes locales, de l'association de la bibliothèque qu'elle présidait à merveille, ou encore au club de gymnastique qu'elle animait, Lia Zanelli était unanimement appréciée. Ce soir, nous rendons hommage à une fille, une sœur, une épouse, une mère, une amie, mais surtout à une grande dame qui restera à jamais dans nos cœurs. Toutes ces années, 15 années au total, que nos deux communes ont partagé avec Lia Zanelli, nous laisserons des souvenirs inoubliables. Effectivement, elle était toujours la première à ouvrir le bal lors des soirées de jumelage. Elle se posait à danser, à initier la tarentelle à ses amis camaritois sur le remords de Bella Ciao, ici dans cette même salle. Avec Lia, pas de superflu, mais toujours de la sincérité et une véritable amitié sincère. Présente à plusieurs reprises au marché de Noël de Camaret, elle animait le stand italien et savait convaincre par sa jovialité les potentiels acheteurs des produits de sa région de Lombardie. Slovaque aussi que Mario et Camari perdent un lien très solide. Mais nous et nous, ainsi que les membres du comité de jumelage, formulons le vœu le plus cher de perpétuer ce qu'elle a entrepris. Non, pour beaucoup, Lila Zamel ne sera jamais partie. Elle sera toujours là pour nous guider dans la bonne voie et partant, pérenniser l'amitié entre nos deux communes. Personnellement, j'ai perdu une grande amie. Mais pour toi, Lila, et pour nous tous ici présents, et pour tous ceux qui t'ont connu, je formule le souhait que l'amitié entre nos deux communes dure tout le temps que ton souvenir demeurera dans nos pensées et même au-delà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.
Merci René. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de Lila Zamel. Merci. Alors, je vous fais aussi des remerciements que nous avons reçus, en particulier d'Estelle et de la part d'Estelle et Benoît Loury, qui tiennent à nous remercier pour notre soutien et notre réconfort dans la douloureuse épreuve qu'ils ont traversée. Ainsi aussi, les familles Caplin, Bousquiazo et Laure ont été très touchées de notre affection, de notre soutien dans la douleur qui fut la leur après le décès de Michel. Monsieur et Madame Christian Bouche, Monsieur Dominique Bouche et Juliette Dugas, Monsieur et Madame Abettinet, Monsieur et Madame Jean-Claude Bouche, enfin aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, ont été très touchés par les marques de sympathie que nous leur avons témoignées à la suite du décès de Madame Marthe Bouche. Ensemble, Vocal Auteur des Vignes, qui nous remercie au nom de l'association pour la subvention que cette année encore nous lui avons attribuée. Je cite, par ces temps difficiles et incertains, nous nous préparions à l'idée que ce montant serait revu à la baisse car chacun de nous a conscience des difficultés que traversent les communes. Cette somme serait employée en partie pour faire face au Covid-19 dans un souci d'une démarche citoyenne. Voilà. L'avenir sportif Camar et toi, tiens, nous remercie sincèrement pour notre présence et celle de nos élus lors du deuxième tour de la Coupe de France qui s'est déroulée à Jonquière. La trésorerie départementale des Restos du Cœur nous adresse ses plus sincères remerciements pour l'aide que le conseil municipal de Camaret a apporté aux Restos du Cœur. Voilà. Ensuite, vous avez eu dans votre dossier les procès-verbaux des conseils municipaux des 17 juin et du 10 juillet 2020. Est-ce que ces comptes rendus appellent de notre part des remarques ou des questions? Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons les faire adopter. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous passons à l'ordre du jour proprement dit, dossier numéro 1. Délégation du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, par délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal délégué a délégué une partie de ses pouvoirs au maire au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Suite à la réception de la lettre d'observation de la préfecture de Vaucluse au titre du contrôle de légalité en date du 9 juillet 2020, précisant que la délibération est incomplète en termes de limites sur les items 17, 21, 22 et 27 de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité d'apporter des modifications demandées par le projet de Toulouse et d'ajouter l'item 26 de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales, il est demandé au Conseil municipal d'annuler la délibération du 28 mai 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil municipal au maire au titre de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, de déléguer à M. le maire pour la durée du mandat les pouvoirs suivants. Alors, si vous le voulez bien, je ne vais pas tout relire, ça me paraît un petit peu fastidieux. Je vais simplement lire ce qui change par rapport à la délibération précédente que la préfecture nous demande de modifier. Donc, vous avez le point 17. Il faut le transformer ainsi. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros maximum. En gras, donc, c'est ce qui a été modifié. Point 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au niveau de la commune, le droit de préemption défini par l'article L241-1 du même code, dans la limite d'un prix d'acquisition maximum de 214 000 euros. Le point suivant, le 22, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini dans les articles L241 à L243 du Code de l'urbanisme pour un montant maximum de 214 000 euros. Ensuite, nous passons au point 26 de demander à tout organisme financier dans la limite de 214 000 euros l'attribution des subventions. Dans l'article 27, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux sans critères de limitation fixés par le conseil municipal. Voilà, donc nous avons reçu une lettre d'observation de la préfecture et nous demandons de modifier la délibération que nous avons adoptée sur des points qui ne posaient pas de problème lorsque nous avons voté la même délibération lors de notre premier mandat en 2014, mais là, voilà. Les avis de la préfecture ont évolué sur ces points-là. Ils nous demandent de modifier. Eh bien, écoutez, qu'à cela ne tienne, on modifie. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mamani. Est-ce qu'on peut venir au secours de monsieur Mamani?
Merci, merci du secours. Voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la délibération que vous demandez de voter aujourd'hui risque d'être remise en cause par monsieur le préfet, qui observe, vous l'avez constaté, avec attention nos délibérations, ou pire, peut-être annulée par le tribunal administratif avec des conséquences sur les engagements auxquels notre ville doit faire face dans les semaines à venir. Je m'explique. Les délibérations adoptées par le conseil municipal sont des actes engageant la commune qui doivent permettre de connaître avec précision l'objet des affaires débattues ainsi que le résultat des votes de cette assemblée. Dans la délibération qui nous intéresse et suite à la réception de la lettre d'observation de la préfecture de Vaucluse au titre du contrôle de légalité en date du 9 juillet, comme vous l'avez dit monsieur le maire, et précisant la dite délibération, étant complète, au terme de limite des items 17, 21, 22, 27, article L221-22, du Code général des collectivités territoriales. Vous nous demandez dans la même délibération et donc dans le même vote d'annuler cette délibération. Cela aurait été conforme si vous n'aviez pas modifié le nombre d'items en en ajoutant un. Cela s'apparente à un changement profond de la délibération numéro 2020 de l'U015 du 28 mai 2020 et cela doit entraîner pour moi un vote pour annuler cette décision et un nouveau vote pour avoir une délibération que vous présentez aujourd'hui. Ceci est une décision constante du Conseil d'État, de la Cour administrative d'appel, de la jurisprudence. Je vous demande donc, pour vous conformer au Code général des collectivités territoriales, de retirer cette délibération à l'ordre du jour d'aujourd'hui, de me la soumettre en respectant le Code général des collectivités territoriales lors d'un prochain Conseil municipal. Je vous remercie de votre attention.
Alors, je vous remercie pour votre intervention, qui est fort intéressante. Néanmoins, je tiens à vous indiquer que ce projet de délibération là, que je vous demande d'approuver, nous l'avons soumis justement en amont à la préfecture qui nous a validé. Donc, écoutez, on verra bien ce que nous dira le préfet. Peut-être qu'il aura une autre position par écrit, alors que les services nous ont validé, enfin, a validé cette délibération oralement.
Non, par écrit.
Par écrit.
Par mail.
Ah, c'est encore mieux. Voilà, écoutez, bon, c'est une affaire d'appréciation juridique. Je pense quand même qu'il faut peut-être pas trop s'arrêter à ce genre de, je dirais pas de détails, mais enfin, d'arguties. Il faut faire avancer les affaires de la commune. On a subi une crise très importante qui a impacté la gestion municipale comme toute vie collective, comme vous le savez. Donc, c'est un petit peu dommage que nous soyons obligés de retarder la mise en œuvre de ces délibérations. Mais il paraît que d'autres communes ont reçu tout un tas aussi d'observations. Donc, il y aurait une politique un petit peu différente désormais de la préfecture de Vaucluse en ce qui concerne le contrôle des délibérations. Et d'ailleurs, je me semble qu'il y a d'autres délibérations que nous allons vous soumettre parce que la préfecture nous a demandé de les modifier alors que jusqu'à présent, elle les acceptait telles quelles. Donc, je tiens compte de votre remarque, monsieur Normani. Voilà, je vous ai fait la réponse, puis on verra bien. Suite au prochain épisode. Donc, je mets aux voix qui est contre. Qui s'abstient, adopté à la majorité, donc il vote contre du groupe Ensemble pour Camaré. Je vous remercie. Dossier numéro 2. Budget principal 2020, décision modificative numéro 1, rapporteur Liliane Diaz.
Bien, décision modificative numéro 1. Conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 17 juin 2020 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2020-DELIB/030 du 17 juin 2020, portant approbation du budget primitif de la commune de Camaré-sur-Aigle pour l'exercice 2020, vu les différentes réalisations effectuées en 2020 et celles en cours, et vu l'avis de la commission des finances réunie le 21 septembre 2020, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune telle qu'annexée.
Monsieur le Dujon va peut-être apporter quelques précisions.
Alors, donc c'est une décision modificative qui est minime. Habituellement, elles sont plus importantes. Mais comme cette année, les décisions modificatives ont pour but, à mi-mandat, à mi-exercice, de tenir compte des réalités nouvelles en termes de recettes, en termes de dépenses, nouvelles recettes qui seraient rentrées, ou les nouvelles dépenses qui seraient intervenues en milieu d'exercice. Mais comme nous avons voté le budget, vous avez voté le budget tardivement cette année en raison de la crise sanitaire, puisque vous l'avez voté en juin, la décision modificative est là, elle est moins importante qu'à l'accoutumée, puisque en juin, on avait déjà passé la moitié de l'année et on avait une vision sur le second semestre qui était un peu plus claire que les années précédentes. Pardon. Donc en section de fonctionnement, on ne touche pas aux recettes, il n'y a aucun mouvement sur les recettes. En dépenses, il y a une diminution de crédit sur le chapitre 012, rémunération principale, c'est-à-dire les dépenses de personnel. On sait que ce que nous avons voté au budget primitif sera, enfin que le réaliser en fin d'année sera en deçà de ce qui était au budget primitif, donc on prend sur ce chapitre-là pour financer les quelques ajustements qui sont faits en dépenses. Et donc parmi ceux-là, les subventions de fonctionnement, on ajoute 3 000 euros, 2 000 euros en prévision du dossier qui sera présenté tout à l'heure pour une subvention exceptionnelle pour la commune jumelle de Razbalbek au Liban, et puis 1 000 euros au cas où nous ayons des demandes de subventions exceptionnelles d'associations ou de clubs sportifs Cap Marétois d'ici la fin de l'année. Une opération d'ordre qui est liée au dégrèvement de taxes foncières accordées par l'État aux jeunes agriculteurs. Donc l'État nous compense ces dégrèvements qu'il accorde aux jeunes agriculteurs et nous restitue la somme équivalente à ce dégrèvement. Et ça nécessite une opération d'ordre à la fois en recettes, ça ne posait pas de problème au niveau des recettes. Par contre, en dépenses, alors ça ne veut pas dire que c'est une dépense, c'est une opération d'ordre. Au final, nous aurons un peu moins de 400 euros compensés par l'État sur ce dégrèvement. Donc on ajoute 500 euros sur la ligne dégrèvement taxe foncière. Et la contribution au fonds de péréquation intercommunale. Donc on avait budgété 105 000 euros. Il se trouve que nous aurons à payer 105 000 500 euros ou un peu moins de 500 euros. Donc on ajoute 500 euros. Voilà. En section d'investissement. Donc là, on tient compte de la notification de nouvelles subventions, donc la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, donc subvention étatique pour l'année 2020, de 81 000 euros pour le projet d'aménagement urbain et de voirie d'entrée de ville. Une subvention un peu plus importante que ce que nous avions prévu de la part du département, puisque pour les travaux de l'école des Amandiers, nous avions prévu 109 000 euros. Finalement, nous aurons 121 000 euros, à peu près, hein, j'arrondis, et donc on ajoute 12 374 euros sur cette subvention. Dans les dépenses, il y a une diminution de crédit liée au marché de travaux de rénovation de la toiture, de l'éclairage et de l'école des Amandiers, puisque le marché a fait que nous avons 11 600 euros en moins par rapport à ce qui avait été budgété. Donc, les 93 000 euros de recettes supplémentaires et la diminution de crédit de 11 600 euros en dépenses nous permet de financer un certain nombre de dépenses supplémentaires ou complémentaires. Donc 600 euros en plus sur l'acquisition d'un logiciel pour la gestion des concessions au cimetière. Donc on avait budgété 1 200 euros, c'est un tout petit peu plus cher, 1 800 euros, donc on ajoute 600 euros pour être équilibré. On ajoute 1 000 euros sur la ligne de travaux entrée de ville, donc divers travaux entrée de ville, au cas où nous ayons, parce que cette ligne est en léger négatif, donc on la remet en positif et on met 1 000 euros au cas où nous ayons des travaux à effectuer d'ici la fin de l'année. Sur la ligne des travaux sur les autres bâtiments communaux, donc on ajoute 13 876 euros, 2 000 euros pour l'éclairage de sécurité du stade de motoball en cas de coupure d'électricité. 10 686 euros, alors là c'est très précis parce que les travaux ont été réalisés, c'est la réfection de la toiture d'un logement locatif en cœur de ville qui avait grand besoin d'être faite. Et puis on met un reliquat de 11 190 euros sur la ligne d'hiver au cas où on ait des choses imprévues d'ici la fin de l'exercice. 5 600 euros liés au changement de caméra défaillante sur le cours du Midi et sur le cours du Nord, ainsi que la liaison de ces caméras du cours du Nord sur l'énergie du secteur, puisqu'il était sur batterie, et les batteries, ça fait plusieurs deux fois qu'on les changeait, donc on a décidé, comme on en avait la possibilité, parce qu'il y a un point de raccordement électrique proche, de raccorder les caméras au courant du secteur. Les autres immobilisations corporelles, donc ça c'est une catégorie comptable, mais en fait ça regroupe des travaux, de l'acquisition de petits matériels ou de petites installations dans les bâtiments communaux. Donc on ajoute 8 000 863,34 €, et on a déjà, dans ces 8 000 €, acheté une nouvelle tourelle d'extraction à la cuisine centrale. C'est ce qui permet d'enlever la vapeur quand la machine de plonge se met en marche. On avait l'ancienne tourelle était défaillante et ça commençait à poser des problèmes d'humidité dans le laboratoire. Et puis on a l'axe du tracteur, les axes du tracteur qui nous sert de support épareuse, qui ont lâché, donc on a dû les changer. Et puis il y a un reliquat qui viendra compléter la ligne d'hiver. 75 000 €, donc sur le chapitre 23, au titre des travaux d'aménagement urbain et paysager de l'entrée de ville. Alors on avait budgété en juin 420 000 €, en sachant que la phase 1 des travaux serait plus importante, enfin ça coûterait plus que 420 000 €, mais on attendait d'avoir la notification de la DETR pour amener la ligne à ce qu'elle devait être, ce qui nous a permis d'utiliser cet argent, enfin la différence, sur d'autres projets en attendant que la DETR nous soit notifiée. La DETR nous a été notifiée, donc on élève la ligne de 70 000 € pour atteindre les 490 000 € TTC, qui nous permettront d'engager la première phase du marché dont on parlera tout à l'heure. Et puis on met une ligne d'hiver 5 000 € au cas où il y a des aléas, soit sur ce chantier, soit sur d'autres chantiers qui pourraient intervenir sur la commune. Voilà. Donc l'ensemble nous amène à 104 933,34 €, qui correspondent et qui sont compensés par les 11 600 € de diminution de crédit et les 93 339,34 € de recettes, ce qui fait que la décision modificative est équilibrée.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, dans ce cas, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention du groupe Ensemble pour Camaret. Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Procédure d'appel d'offres pour la requalification de l'entrée de ville, aménagement urbain et paysager, attribution du marché 2020-03. Dans la continuité de sa politique de requalification urbaine et de réhabilitation du bâti de l'entrée de ville, la municipalité a opéré un aménagement urbain et paysager de l'espace jusqu'alors occupé par le parking de la Poste, ainsi que la requalification de l'avenue Fanny-Gonnier depuis le cours du Midi jusqu'au chemin de Piolenc. Eu égard au coût estimatif de l'opération et afin d'assurer le respect des principes de libre accès à la commande publique et de mise en concurrence des entreprises, la commune a utilisé la procédure d'appel d'offres ouvert telle que définie à l'article L2123-1 du Code de la commande publique pour la désignation des entreprises susceptibles de réaliser ces travaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, vu le Code de la commande publique, vu le budget primitif de la commune, vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 16 septembre 2020, le marché de procédure adaptée, MAPA numéro 2020-03, requalification entrée de ville, aménagement urbain et paysager, place de la Poste, est divisé en 3 lots. La date limite de remise des offres était fixée au 27 juillet 2020 à midi. L'ouverture des prix s'est déroulée ce même jour. Des précisions, demandes de compléments et une négociation a été lancée pour une réponse des candidats fixée au 27 août 2020 à midi. L'analyse technique réalisée par le cabinet C2I a été présentée aux commissions d'appel d'offres le 16 septembre 2020. Il ressort que les offres suivantes ont été retenues par avis de la commission d'appel d'offres. Alors, en ce qui concerne le lot numéro 1, donc c'était terrassement, voirie, revêtement qualificatif mobilier, c'est la société Brajavizini pour un montant de 248 750 € hors taxe pour la tranche ferme, 287 579 € hors taxe pour la tranche optionnelle. En ce qui concerne le lot numéro 2, les réseaux et la fontainerie, c'est la société TPR pour un montant de 76 851,61 € hors taxe pour la tranche ferme, 59 186,50 € hors taxe pour la tranche conditionnelle. Mais en ce qui concerne le numéro 3, c'est-à-dire les aménagements paysagers, c'est la société RCRV Basse-Montagne qui a été retenue pour un montant total de 68 079,36 € hors taxes. Conformément au code de la commande publique et au code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à attribuer chacun des lots du marché à procédure adaptée, non pas numéro 2020-03, requalification d'attribution d'aménagement de paysager place de la Poste, et à signer tout document afférent à l'exécution de ce marché à destination des candidats retenus. Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, immobilisation en cours.